statistiques de l'époque, c'est la récidive. C'est-à-dire, grosso modo, que ce sont toujours les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes. Et cette angoisse de la récidive va amener, si vous voulez, toute une réflexion, à la fois de la part, bien sûr, de l'anthropologie criminelle naissante à l'époque, hein, l'école italienne de Lombroso ou l'école lyonnaise d'Alexandre Lacassagne, qui s'interroge qu'est-ce qui fait qu'un homme devient criminel, pourquoi devient-on criminel, etc. Alors Lombroso, vous le savez, c'est l'idée et la théorie du criminel né. En fait, le criminel serait prédisposé à commettre des crimes parce qu'il emporte d'ailleurs des stigmates physiques qui sont reconnaissables. C'est bien pratique et rassurant, hein, d'imaginer qu'on peut reconnaître quelqu'un, un futur criminel, à son apparence physique. Du côté de l'anthropologie criminelle lyonnaise, on s'intéresse plutôt au milieu qui a vu naître le futur criminel, aux conditions sociales, hein, qui peuvent amener quelqu'un à devenir un criminel. Mais il y a également, bien sûr, les pénalistes qui réfléchissent à la question, et notamment, par exemple, quelqu'un comme Gabriel de Tarde, et puis les législateurs. Et la grande idée, si vous voulez, la grande découverte, c'est de se dire que ce sont d'abord donc toujours les mêmes criminels qui commettent les mêmes crimes, mais il y a une autre idée très forte qui est que la prison fabrique des criminels. Et donc la législation va essayer de s'adapter à ces deux découvertes. 1885, une loi qui porte, comme d'habitude en France, le nom de celui qui l'a défendue, et qu'on appelle donc la loi Valdez-Crousseau, va créer, si vous voulez, va prévoir des pénalités beaucoup plus fortes pour les criminels d'habitude et pour les récidivistes. Des peines qui s'alourdissent au fur et à mesure, évidemment, des récidives et qui peuvent aller jusqu'à la relégation. En 1891, on imagine une espèce de justice à deux vitesses en introduisant le sursis, au contraire, c'est-à-dire éviter la prison à des gens qui seraient des criminels de hasard et dont on imagine qu'il n'est pas la peine de les envoyer en prison. Le problème de cette justice à deux vitesses suppose bien évidemment qu'on soit capable d'identifier les récidivistes, qu'on connaisse le passé judiciaire d'un accusé et qu'on soit capable de l'identifier. Or, cette identification, ça pose deux problèmes. Le premier, c'est celui de la mémoire de la justice, bien sûr. Et le deuxième, c'est celui de l'identification. Or, cette identification, elle est de plus en plus difficile parce que depuis le Second Empire, on a supprimé les papiers d'identité. Et puis, parce que définitivement, depuis 1832, on a supprimé la marque infamante au fer rouge qui flétrissait les criminels. Et donc, on se trouve devant des gens qui ont pu commettre des crimes, mais un jour sous le nom de Dubois, un jour sous le nom de Martin, et il est extrêmement difficile donc de les identifier. Alors, ces deux problèmes, problème de mémoire, connaître le passé judiciaire de quelqu'un et problème d'identification, on a essayé d'y répondre, si vous voulez, avec des moyens relativement clairs et simples. En ce qui concerne la mémoire de la justice, eh bien, c'est le rôle de ce que l'on appelle les sommiers judiciaires, dont le vrai nom est le Registre général des condamnations, conserver la trace de toutes les condamnations prononcées en France par les tribunaux. Alors, c'est une tradition extrêmement ancienne, puisqu'on a conservé les arrêts du Parlement et les condamnations du Parlement depuis le milieu du XIIIe siècle. Donc, il y a une tradition, si vous voulez, et le Code d'instruction criminelle, au début du XIXe siècle, par ses articles 600 à 602, a prévu que chaque fois qu'il y avait une condamnation, eh bien, le greffe du tribunal devait envoyer le texte de cette condamnation, une fiche de cette condamnation, curieusement, à la préfecture de police, c'est-à-dire à la police de Paris. Et donc, depuis 1800, c'est la préfecture de police qui est en charge de ces sommiers judiciaires. Cette photographie date du début du XXe siècle, hein, même un petit peu avant, de la fin des années 1890, et on y voit donc des commis aux écritures, hein, qui tous les jours remplissent donc les cabriolets des nouvelles fiches, ressortent des fiches quand on a une vérification à faire lors d'une enquête pour connaître une condamnation possible et précédente. Et puis, alors ces registres, si vous voulez, ont présenté des tas de problèmes. D'abord, pendant longtemps, ce sont des gros registres de la taille d'un in-folio dans lesquels on écrit à la suite les condamnations. Vous imaginez un petit peu les manipulations, la difficulté pour trouver un nom, hein, retrouver un nom, retrouver une date, une condamnation, surtout quand elles sont dans toute la France. Alors le problème a été résolu en 1833 par le préfet Gisquet. On a remplacé ces registres par des fiches mobiles cartonnées. Ça n'a l'air de rien, mais c'était un énorme progrès, hein, bien sûr. Mais les deux autres problèmes étaient celui de l'inflation des fiches. On s'est retrouvé avec des millions de fiches assez rapidement. Et puis l'autre problème était celui des homonymies. On avait 50 000 Dubois et autant de Martha, bien sûr. Alors, ajouter à ça deux destructions terribles pour ces sommiers, enfin deux événements extrêmement malheureux pour ces sommiers. Lors de la semaine sanglante, les communards ont incendié la préfecture de police et le palais de justice et ont détruit de ce fait toute trace des sommiers. Il faudra plus de 15 ans pour reconstituer des milliers et des centaines de milliers de fiches. On s'était donné comme point de départ l'année 1831, mais ça représentait un travail d'écriture. Il a fallu revérifier tous les greffes de tous les tribunaux de toute la France, sauf les zones désormais devenues allemandes et sauf Paris, où les papiers avaient brûlé. Alors, inflation des fiches, destruction des fichiers, homonymie, ce sont déjà des problèmes, mais surtout l'autre problème, c'est que ces sommiers ne font que compiler les condamnations qui sont prononcées sous une même identité. Or, comme les récidivistes ont rapidement compris que la justice à deux vitesses imposait, bien sûr, de ne pas être reconnus comme récidivistes, eh bien, ils se sont affublés de pseudonymes ou de noms, de faux noms, et qu'on n'avait pas du tout les moyens de vérifier. Alors, la préfecture de police, qui pendant longtemps est une espèce de laboratoire et de modèle des polices en France, avait mis au point des méthodes apparemment un peu plus scientifiques. Alors qu'on comptait essentiellement sur la mémoire des gardiens de prison, sur la mémoire des policiers, pour reconnaître quelqu'un. Alors chaque fois qu'un fourgon cellulaire arrivait, on faisait faire un petit tour de piste aux condamnés, et puis éventuellement, on les interpellait d'une façon grossière. « Ah, Martin, te revoilà, t'es encore retombé, etc. » Il n'y avait que les novices, évidemment, qui pouvaient se laisser prendre à ce genre de piège. Hein. On utilisait la technique des moutons, bien sûr, dans les prisons, hein, c'est-à-dire des gens qui font parler leurs co-détenus pour essayer d'en savoir plus sur leur identité, mais tout ceci finalement n'avait pas de grands résultats, sinon, comme il y avait une petite prime de 5 francs pour la reconnaissance d'un récidiviste, la mise au point d'un petit trafic, hein, entre les gardiens de prison, etc., on reconnaissait, on partageait la prime avec le détenu qui acceptait de se faire reconnaître, parce qu'en général, c'était pour un tout petit délit, évidemment, il ne risquait pas grand-chose, et surtout pas la relégation en Guyane. Alors, la préfecture de police, plus scientifique, beaucoup plus organisée, beaucoup plus riche, disposant de beaucoup plus de personnel, etc., faisait mieux. Elle avait donc mis au point, si vous voulez, des fichiers, hein, avec des fiches cartonnées sur lesquelles, scrupuleusement, un certain nombre de commis aux écritures recopiaient des signalements extrêmement vagues, hein, du genre taille moyenne, visage normal, yeux marrons, et le tout classé à des noms vraisemblablement faux. Et c'est un des commis aux écritures employées à ce travail inutile, stupide, dont la vacuité le frappait évidemment, qui en 1879, eh bien, a essayé de proposer quelque chose d'un peu plus logique. Alors, ce commis aux écritures que vous voyez ici photographié, excusez-moi, en 1890, s'appelle Alphonse Bertillon. Alphonse Bertillon, il est né en 1852 dans une famille et dans, il a été élevé dans un environnement extrêmement favorable, si vous voulez, à ce genre de réflexion. Il est le petit-fils d'Achille Guillard, qui est l'inventeur de ce que l'on appelle la démographie. Il est le fils du docteur Bertillon, qui est le créateur de l'anthropologie criminelle. Il est le frère de Jacques Bertillon, qui finira directeur de la statistique de la ville de Paris. Le problème, c'est qu'Alphonse, c'est le vilain petit canard de la famille. Il fait des études médiocres, il se fait renvoyer de lycée en lycée, etc., et désespère sa famille jusqu'à son service militaire, qui le voit, alors qu'il est à Clermont-Ferrand et secrétaire de son colonel, se passionner pour l'ostéométrie, c'est-à-dire qu'il passe son temps à mesurer des squelettes, comme il est passionné par la statistique, qu'il a vécu au milieu des courbes de Quetelet, eh bien, il va avoir l'idée d'un système que l'on appelle le système anthropométrique, dont il écrit au préfet de police qui s'appelle Andrieux en 1879 le principe. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord de savoir que Bertillon est entré à la préfecture de police uniquement par piston, comme on dirait aujourd'hui. C'est parce que son père et les amis de son père ont demandé qu'on l'embauche, bon, désespoir de cause. Il est embauché en mars 1879 et dès le mois d'octobre, donc, il présente au préfet Andrieux un procédé, dont il lui dit qu'il pourrait servir à identifier, à reconnaître les récidivistes. Alors, ce procédé, il est fondé sur ce qu'il appelle l'identité anthropométrique. L'identité anthropométrique, c'est que le squelette étant formé, disons, à une vingtaine d'années, reste jusqu'à un âge très avancé, à peu près immuable dans ses mesures. Et donc, son idée, c'est qu'en mesurant un certain nombre de choses, la largeur de la tête, l'envergure, la taille, la hauteur de la tête, la longueur du médius gauche, la coudée gauche, etc., et en comparant donc ces mesures, on devrait être capable de reconnaître un récidiviste, ou en tout cas un même individu, sous quelle que soit l'identité sous laquelle il se dissimule. Alors, son idée, c'est 9 mesures, hein, et 9 mesures qui sont donc, comme je vous disais, des mesures osseuses, et qui, classées, doivent permettre, hein, mesure par mesure, d'identifier, donc, ça fait 3 puissance 9, hein, ça fait 19 683 divisions, et doivent permettre, donc, de reconnaître deux individus portant les mêmes mesures, même s'ils sont classés sous des noms différents. Alors le problème, c'est que le préfet Andrieux, vous voyez la signature, c'est l'autographe, hein, de Bertillon, commis auxiliaire au premier bureau de la division du cabinet, hein, le préfet Andrieux a complètement rigolé. D'abord, il n'a pas répondu, pardon, à la première lettre, ce qui fait que Bertillon envoie une deuxième lettre au mois de décembre 1879, un peu plus pressant, hein. Il est convaincu d'avoir raison. En plus, son père, les amis de son père sont complètement étonnés, parce qu'ils se disent, tiens, ce garçon dont on ne pensait qu'on ne tirerait rien a eu une bonne idée. Il trouve très, très séduisante son idée. Mais Andrieux répond à sa deuxième lettre que si ce jeune commis auxiliaire aux écritures continue de l'importuner, il s'en débarrassera, il met en doute sa santé mentale, il n'a rien compris à ses mesures et considérations ostéométriques, et Bertillon n'a qu'une solution, c'est d'attendre que le préfet de police reste généralement pas longtemps en place, hein, 2 ou 3 ans, que Andrieux, qui est le père, je vous rappelle, biologique d'Aragon, Louis Aragon, soit remplacé par un autre. Alors, l'événement se produit effectivement en 1882 et le nouveau préfet, dont l'histoire n'a pas retenu le nom, s'appelait Kamescas. Les étudiants de l'époque l'avaient évidemment surnommé Kamescas-tête parce qu'il était réputé pour la sévérité avec laquelle la police parisienne réprimait les manifestations, se laisse convaincre. et il accorde aux jeunes commis aux écritures 3 mois. 3 mois pour mesurer tous les prévenus qui passeront par le dépôt. Et en 3 mois, il doit donc démontrer que sa méthode est valide et efficace. C'est un pari impossible, parce qu'en 3 mois, cela suppose qu'il ait mesuré quelqu'un, que ce quelqu'un ait été libéré, soit retombé, soit arrêté une nouvelle fois, qu'il le mesure une deuxième fois. Néanmoins, et malgré la difficulté, donc, Bertillon se met au travail, alors au grand amusement, bien sûr, des prévenus qui, au dépôt, se laissent mesurer, mais assimilent cette pantomime à quelques canulars, hein, bien sûr. Donc, on leur mesure le pied gauche, la largeur de la tête, et la hauteur de la tête, etc., etc. Et alors qu'il commence le 15 décembre 1882, et alors qu'il est, il entame son 3e mois, le 16 février 1883, eh bien, il reconnaît sous le nom de Dubois, qui vit arrêté pour vol, un Martin qu'il avait mesuré le premier jour de ses mesures, le 15 décembre 1882, qui était prévenu de la tentative de, ça ne s'invente pas, de vol de bouteilles vides. Donc il lui dit, phrase célèbre, mais Dubois, j'en apprends de drôle sur vous, Martin, et, bon bref, Martin ou Dubois, enfin c'était pas du tout son nom bien sûr, pétrifié, hein. Aussitôt Bertillon évidemment fait un rapport au préfet et explique au préfet la réussite de son système. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, l'anthropométrie, alors vous voyez quelques photographies, hein, avec les instruments, la mesure de la tête, la mesure de l'oreille, la mesure du médius gauche, de la coudée gauche, etc. Eh bien, l'anthropométrie, là c'est la lettre dans laquelle il annonce sa réussite, hein, au préfet Kamescas, et là c'est un rapport 2 ans plus tard où il montre le nombre de reconnaissances effectuées par trimestre en 2 ans, hein, et puis le nombre de gens qui ont été mesurés. Car désormais, tous les prévenus qui passent par le dépôt vont être systématiquement, on va bientôt dire bertillonnés, alors employons le terme, hein, et vont l'être également tous les prisonniers de toutes les prisons de France. Et pour ce faire, Bertillon, regardez, met au point une petite valise qui comporte les instruments nécessaires et qui va permettre d'opérer dans toutes les prisons de province. Alors, alors cette caricature de l'assiette au beurre a surtout, d'abord elle est très drôle bien sûr, mais en plus à l'intérêt, Bertillon, figuré pas très ressemblant je trouve, porte, regardez, cette grosse malle que l'on va appeler la Bertillonne, alors qui n'a rien à voir avec la petite malle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui permettra d'aller analyser sur place les scènes de crime. Il y a tout un matériel intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Bertillon fait la preuve, si vous voulez, par le nombre de reconnaissances, hein, qui sont importantes. Je vous donne quelques chiffres. Hein. En 1883, pardon, la première année, il reconnaît 49 récidivistes. En 1884, excusez-moi, 241, 425 en 1885, 614 en 1890, 680 en 1892. Ça veut dire que l'anthropométrie triomphe. Et Bertillon en tire une gloire exceptionnelle. On n'hésite pas à comparer Bertillon à Pasteur en France, parce que on pense que l'un sera capable d'éradiquer la maladie grâce au vaccin et que l'autre sera capable d'éradiquer le crime grâce à l'anthropométrie. Parce qu'évidemment, si les gens sont reconnus, sont punis, sont condamnés, ils seront beaucoup plus prudents ou beaucoup moins tentés de franchir les normes et les lois. Et son triomphe a lieu en 1889, Exposition universelle à Paris, c'est celle où on inaugure la fameuse tour de Monsieur Eiffel, bien sûr, hein, c'est le centenaire de la Révolution française, et à cette occasion se tient à Paris un prestigieux congrès de l'anthropologie criminelle. Et à ce congrès, à l'unanimité, les représentants de la plupart des pays du monde, eh bien, votent une motion comme quoi l'anthropométrie doit être utilisée dans tous les pays. Et des pays comme aussi lointains que les États-Unis, hein, les pays d'Amérique latine, l'Angleterre, bien sûr, mais mieux encore pour l'orgueil national, l'Allemagne, l'Empire allemand, hein, où on crée à Berlin un service qui porte le nom de service Bertillon. Donc, Bertillon triomphe d'autant plus qu'en 1892, il va réussir quelque chose de terriblement important pour l'époque et qui a marqué les esprits, si vous voulez, c'est qu'il a été capable d'identifier un personnage dont, qui avait fini par terroriser les Parisiens, qui opère sous le nom de Ravachol et qui avait posé un certain nombre de bombes chez un magistrat, dans un café, etc. Ravachol n'est pas arrêté grâce à Bertillon, mais il est identifié. En réalité, il a été bertillonné quelques années plus tôt. Voilà sa fiche, hein, voilà ses deux fiches. La fiche parisienne, donc de 1892, du mois de mars 1892, et puis la fiche qui date de 1890. Il avait été bertillonné à la suite d'un crime, hein, commis en Haute-Loire. C'est d'ailleurs ce crime qui lui vaudra d'être condamné à mort, exécuté, hein, et alors qu'il avait été condamné à une peine seulement de prison pour ses attentats anarchistes. Alors, avoir reconnu Bertillon, en fait, qui s'appelle Königstein, hein, montre tout l'intérêt, non seulement contre la criminalité, mais dans le contrôle social, mais dans la lutte contre l'anarchisme, toutes les utilisations que l'on peut faire, bien sûr, de la méthode de Bertillon. Et dans ce domaine, Bertillon, je vous remontre, pardon, a mis au point donc une fiche, c'est la sienne, hein, bien sûr, enfin c'est la sienne, c'est lui qui sert de modèle, et cette fiche, qui est la première fiche donc de Bertillon, regardez, se compose de trois parties, hein, je vais y revenir, l'anthropométrie, c'est-à-dire ces 9 mesures au millimètre près, hein, bien sûr, et même au dixième de millimètre. Une photographie signalétique, c'est lui aussi qui est l'inventeur de la photographie signalétique, et un signalement descriptif, trois éléments sur lesquels je vais revenir. Donc 1892, Bertillon triomphe, sa méthode triomphe, et en même temps, c'est un champ du cygne. C'est un champ du cygne parce que très vite, et Bertillon est loin d'être un imbécile, mais d'autres se sont chargés aussi de lui dire, l'anthropométrie a des faiblesses considérables, bien sûr. Si elle permet de distinguer deux individus dissemblables, en aucun cas elle ne permet d'affirmer l'identité de deux individus qui auraient les mêmes mesures. Et ce problème de l'identité qui dépasse largement le problème de la criminalité et de la police, hein, qui est un problème, j'allais dire, épistémologique, philosophique, etc., n'est pas résolu par l'anthropométrie. Alors, Bertillon, très conscient du problème, donc, n'a cessé et ne va cesser d'enrichir ses travaux, ses recherches et sa fiche parisienne. Alors, je vous les donne dans le désordre, hein, chronologiquement, mais tout ceci arrive en 2 ou 3 ans. Hein. Tout d'abord, donc, il utilise la photographie. Mais cette photographie qui n'était jamais normée, si vous voulez, on photographiait les gens sous des angles différents, à des distances différentes, etc., il va créer une photographie signalétique qui obéit aux mêmes normes. Une photo de face, une photo de profil, le profil droit, avec l'importance de l'oreille, hein, notez-le, qui est l'assise signalétique par excellence. Et cette photographie donc sera prise dans un éclairage, etc., avec un appareil, une focale, toujours les mêmes. Et c'est un des apports importants de Bertillon, bien sûr. Deuxième chose que l'on doit donc à Bertillon, c'est qu'il va enrichir l'anthropométrie de tout un tas d'autres choses qui permettent de reconnaître quelqu'un. Alors ces signes de reconnaissance, ce sont des signes spécifiques comme les cicatrices, les tatouages, bien sûr, les grains de beauté, les mutilations, que sais-je encore, hein, bien sûr. C'est ce qu'il appelle les signes particuliers. Et puis, il ajoute à ça, eh bien, la couleur des yeux, la colorimétrie, hein, et puis, il va se lancer dans tout un travail, regardez, sur le visage, dont tout ou presque va servir à décrire quelqu'un. Et cette description, c'est ce qu'on appelle donc le signalement descriptif, hein, qu'on va prendre l'habitude d'appeler portrait parlé, parce qu'il suffira que deux personnes qui parlent la même langue et qui ont la même technique se communiquent par téléphone et puissent décrire quelqu'un de façon scientifique. Alors, ce portrait parlé, ce signalement descriptif, regardez, porte sur tout ce qui est dans un visage. Ça va de l'implantation des cheveux, à la forme de l'arcade sourcilière et aux sourcils, à la forme du nez. Rien que le nez donne lieu à 9 mesures descriptives en fonction de son profil, hein, de sa largeur, etc., etc. On fait la même chose du menton, on fait la même chose de la bouche, on s'occupe du front, du bombement, du nez. L'oreille donne lieu à une description extrêmement compliquée et complexe. Et voilà, si vous voulez, la nomenclature, regardez, du portrait parlé qui va être utilisé donc par le service qu'on a donné à commander et à diriger à Bertillon et qui s'appelle à partir de 1892 le service de l'identité judiciaire. Donc vous le voyez, le front, hein, les oreilles, les sourcils, le nez, je ne peux pas tout lire, pardon, excusez-moi, les rides, le menton, hein, la racine des cheveux, la bouche, les lèvres, tout donne lieu à des descriptions. Et ensuite, et ça vous rappelle complètement ce qu'il y a à l'exposition, et puis au problème du portrait robot, vous savez, hein, eh bien ensuite, regardez, pour l'édification des policiers, et puis rapidement des gendarmes à partir de 1902, eh bien, on édite des tableaux où on présente les grands types de front, d'implantation des cheveux, les profils, les nez, les moustaches, les mentons, les lèvres, etc., etc., jusqu'à ce que les gens, en parlant, si vous voulez, en adoptant le vocabulaire extrêmement précis, soient capables de décrire quelqu'un et que quelqu'un qui connaît la même nomenclature, à l'écoute, soit capable de reconnaître quelqu'un. Alors, ça donne lieu à des exercices assez réjouissants dans la cour de la préfecture de police. On donne aux gens, par exemple, une description à un portrait parlé, et tous les policiers qui sont en stage ont pour charge, eh bien, de reconnaître celui qui correspond au portrait parlé qu'on leur a donné. Alors, on a une photo, par exemple, mais alors, elle est tellement de mauvaise qualité que je n'ai pas pu vous l'apporter, où on voit tous ces gens, et la première chose qui se regarde, c'est essentiellement l'oreille. Alors, c'est drôle, parce qu'ils sont tous, évidemment, en canotier, comme on l'est à l'époque, et ça donne une assez bonne idée de c'est un apport extraordinaire, hein, ce portrait parlé, mais c'était d'une extraordinaire complexité à apprendre, avec un vocabulaire extrêmement précis qui devait permettre à tous ces gens, tous ces policiers formés au portrait parlé, eh bien, d'être capable de décrire, je vous disais, et de reconnaître quelqu'un. Alors, les yeux, bien sûr, leur couleur, leurs paupières, les globes oculaires, etc. Et le fondement de tout, en fait, c'est essentiellement l'oreille, qui est la base signalétique par excellence, hein, parce que deux personnes n'ont jamais la même oreille. Alors, les rides, bien sûr, etc. Alors, l'appareil dont Bertillon se sert pour photographier, hein, de face et de profil, dans les combles du quai des Orfèvres. Ça se passait sous les toits, on y crevait de froid l'hiver et de chaud l'été, mais il y avait de grandes verrières qui apportaient la lumière nécessaire. Et je voulais vous montrer combien la photo signalétique apporte, bien sûr. Vous avez là le même individu photographié à quelques mois d'intervalle. regardez le gamin du bas hein, qui ne ressemble plus du tout au gamin du haut qui vient d'être arrêté pour la première fois, qui est impressionné, un peu sauvage, alors que l'autre fait tout de suite sournois à l'idée de regarder ailleurs parce qu'on lui a dit « essaye de bouger pendant la photographie », etc. Alors, changement psychologique intéressant. Même individu, regardez, et là, cette fois-ci, ce qui change, bien sûr, c'est l'âge, et puis alors, le visage qui s'est... troisième exemple, hein, même individu, regardez, dans les deux cas, hein, extrêmement difficile à reconnaître, sauf, regardez bien, si vous regardez l'oreille. Tout à fait caractéristique. Hein. Alors, à cette fiche, donc je vous la remontre, hein, qui est la première fiche de Bertillon, elle date de 1891. Vous avez, regardez donc, trois choses. L'anthropométrie, comme je vous disais, la photographie signalétique, et puis ce fameux signalement descriptif hein, qui était porté avec des initiales, c'est incompréhensible hein, pour les non-initiés. À partir de 1894, eh bien Bertillon ajoute à sa fiche les empreintes de quatre doigts de la main droite, pouce, index, majeur, annulaire. 1894, donc, il ajoute à sa fiche, avec réticence et je dirais presque répugnance, hein, quelque chose qu'il n'a pas inventé, quelque chose qu'il va essayer de, contre lequel il va essayer de lutter toute sa vie, et c'est quelque chose, c'est la dactyloscopie. Alors il faut que je vous en dise quelques mots, bien sûr. Les crêtes papillaires que nous possédons tous, hein, à l'extrémité de chaque doigt, sont différentes d'un doigt à l'autre. D'une main à l'autre, c'est la même chose d'ailleurs pour les pieds, mais je ne vous le montrerai pas bien sûr, et elles sont différentes d'un individu à l'autre. Elles sont dessinées, ces crêtes papillaires, depuis le sixième mois de la vie intra-utérine. Elles sont valables jusqu'à la décomposition du corps. Elles sont donc... cette fameuse preuve de l'identité, signe de l'identité que Bertillon croyait avoir trouvé, mais n'a pas trouvé avec l'anthropométrie. Alors, on ne peut pas attribuer à quelqu'un de particulier l'invention, la découverte des empreintes digitales. En fait, comme souvent, vous savez, c'est comme la machine à vapeur, le chemin de fer, c'est une suite de gens, hein, sur plusieurs siècles, qui ont apporté chacun leur pierre. C'est un anatomiste italien du XVIIe siècle qui s'appelait Malpighi, hein, qui le premier les a décrites. C'est un médecin tchèque, à l'époque il est autrichien, Évariste Purkinje, qui est quelqu'un de connu pour l'hématologie, hein, c'est le grand inventeur, mais qui le premier a essayé de les classer. Excusez-moi. Et c'est un administrateur britannique, et c'est intéressant, qui en 1858, dans le district des Indes dont il a la charge administrative, eh bien, va utiliser ses empreintes pour la première fois sur le plan administratif. Il n'en est pas l'inventeur. Il s'appelle Herschel. Hein. Il n'en est pas l'inventeur. Il utilise tout simplement une pratique qu'utilisaient les Indiens depuis sans doute des siècles et des siècles. Quand les gens étaient analphabètes, étaient incapables de signer leur nom, ils signaient un document comme par exemple un bail, comme par exemple un acte de vente ou de propriété avec leurs empreintes. Herschel a l'idée d'utiliser ces empreintes pour reconnaître, je dis ça en souriant, mais c'est quasiment vrai, hélas, hein, des indigènes qui, bien sûr, pour les Européens, se ressemblent tous, hein. Et il utilise de façon administrative, mais pas sur un autre plan. C'est un médecin britannique ou américain, j'ai trouvé les deux choses, qui s'appelait Harry Fowles, qui est médecin à l'hôpital de Tokyo, qui en 1880 écrit un article dans une revue prestigieuse encore aujourd'hui, qui est la revue Nature, hein, Nature, un article expliquant l'utilisation, il connaît ce qu'a fait Herschel, hein, bien sûr, mais lui explique pour la première fois l'utilisation policière que l'on peut faire des empreintes, 1880. Il montre même qu'il a pu vérifier des empreintes sur deux criminels à Tokyo, et il donne même une méthode avec un tampon encreur, hein, pour essayer de, parce que le problème de récupérer les empreintes, et avec une plaque d'étain. Ensuite, 10 ans plus tard, à peine, hein, c'est un Britannique qui s'appelle Galton, qui est le successeur de, qui est un médecin lui aussi, qui va pour la première fois essayer de classer les empreintes. Parce que c'est un problème extrêmement difficile, hein. On a tous des empreintes différentes de doigt en doigt, tous les individus ont des empreintes différentes, mais comment classer ces empreintes ? J'ai fait une bêtise, pardon. Voilà. Alors, il va, on va tâtonner longtemps, hein, sur ce problème du classement des empreintes, et on va... À l'époque, hein, je crois que les choses ont un peu changé, mais vous, les spécialistes ici présents nous aideront. On les classe, regardez, par rapport à ceci, que l'on appelle le delta. Voyez ? Alors, ça, c'est une empreinte avec delta à droite. Ça, c'est une empreinte avec delta à gauche. Et ça, c'est une empreinte avec deux deltas, regardez. Et ça, c'est une empreinte sans delta. Alors je crois que maintenant, hein, les choses ont un peu changé et qu'on change de nom, mais c'est grosso modo le principe. Hein. Alors,
une petite technique, si vous avez
besoin. Ah d'accord, merci. Mais vous avez vu la petite flèche, hein ? D'accord. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. Donc pas de delta, hein, ici. Ici, un delta à droite. Excusez-moi. Ici. Un delta à gauche et ici deux deltas, même si celui de gauche ne se voit pas très précisément. Alors Galton écrit un livre qui a beaucoup impressionné en 1890, qui s'appelle Finger Tips, hein, c'est-à-dire donc les empreintes digitales. Et il a tellement impressionné les gens et influencé les gens que le ministre de l'Intérieur, donc le secrétaire du Home Office, hein, en Angleterre, décide, alors que l'Angleterre est en train de passer à l'anthropométrie, hein, eh bien, décide de réunir une commission qui va se prononcer sur les mérites respectifs de la dactyloscopie et de l'anthropométrie. Le résultat ne fait pas de... Même si la commission a travaillé longtemps, hein, ne surprend pas. En 1894, la commission conclut qu'il faut absolument ajouter les empreintes digitales, comme on les appelle, hein, vulgairement, à l'anthropométrie. Et quelques années plus tard... le successeur de Herschel, un administrateur britannique donc dans l'Empire des Indes, qui s'appelle Galton, eh bien, devient directeur de Scotland Yard, et il décide de totalement abandonner l'anthropométrie. Désormais, on ne gardera plus que la dactyloscopie. Parce que l'anthropométrie, outre les défauts que je vous avais annoncés qu'elle présente, hein, présente aussi un inconvénient, en tout cas un désavantage fondamental à l'égard des empreintes digitales, c'est que les empreintes digitales, un cambrioleur, un voleur, un assassin, en laisse forcément sur les lieux de son forfait, alors qu'on n'a jamais vu un criminel laisser ses mesures osseuses. Donc, ce seul fait, si vous voulez, fait que l'anthropométrie est abandonnée, sauf en France, bien sûr, où Bertillon ne se rallie qu'avec beaucoup de répugnance et de lenteur à la dactyloscopie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi avons-nous l'impression, garde-t-on, hein, dans l'idée générale, vous le savez bien, l'idée que Bertillon, c'est l'inventeur des empreintes digitales ? Eh bien, parce que la fortune ne sourit sans doute qu'aux gens chanceux, Bertillon est à l'origine de quelque chose qui a totalement frappé l'opinion, bien sûr, qui est la première identification d'un assassin dont l'identité était absolument inconnue sur ses seules empreintes digitales. C'est l'affaire Pierre-Léon Schaeffer, donc, très précisément, au mois d'octobre 1902, on retrouve chez un dentiste le corps assassiné de son domestique. Vraisemblablement, il a été assassiné par un cambrioleur qui, surpris, a dû le tuer. Et la preuve du cambriolage, elle est présente, c'est un médaillé fracturé dans lequel un certain nombre de couverts en argent, etc., ont été volés. Mais l'énorme avantage, c'est qu'il y a sur ce médaillé dont le voleur a cassé, brisé la vitre, mais ensuite, vous savez, il a pris la vitre pour l'enlever, eh bien, il y a 4-5 empreintes extraordinairement précises. Non seulement il y a les empreintes digitales, mais il y a même des empreintes phalangiques, comme on dit, c'est-à-dire toute la phalange, des 4 doigts plus le pouce en face. Bertillon réussit à distinguer, donc, ce qui est un peu compliqué parce qu'elles sont donc mélangées, hein, l'empreinte du pouce et l'empreinte des 4 autres doigts, et il va... apparemment au hasard, parce qu'il ne possède qu'une toute petite collection d'empreintes digitales qui ne sont même pas classées, il va identifier ces empreintes avec celles d'un voleur dont on a pris les empreintes, vous vous souvenez, 4 doigts de la main droite, plus le pouce de la main gauche qu'il a ajouté en 1901, et qui s'appelle Pierre-Léon Schaeffer. Et Pierre-Léon Schaeffer va être convaincu. Alors, à la suite d'un rapport, voilà, si vous voulez, les empreintes trouvées sur le médaillé. Voilà les empreintes de Pierre-Léon Schaeffer quand il avait été dactyloscopé au début de l'année. Et Bertillon montre les points de convergence qui permettent de conclure que les empreintes sont indubitablement celles de Schaeffer. Devant un Schaeffer complètement éberlué, évidemment, devant des jurés encore plus éberlués, eh bien, Bertillon fait sa démonstration et Schaeffer sera lourdement condamné, alors qu'aujourd'hui, on se poserait quand même des questions. Le fait qu'il y ait ses empreintes ne prouve pas qu'il a tué le domestique. Hein. Tout au plus, peut-on dire qu'il était sur place, qu'il a touché le médaillé, mais c'est tout. Hein. Alors, voilà le rapport dans lequel donc Bertillon explique et voilà la liste des convergences qu'il a trouvées. C'est toujours, bien sûr, émouvant de voir ça. Alors, il faut vous imaginer l'extraordinaire aura que ça a donné à Bertillon. Hein. Si je voulais être vraiment désagréable avec lui, je dirais qu'on n'est pas tout à fait certain quand même qu'il ait travaillé au hasard. Il semble que la police ordinaire, qui faisait son travail, vous savez, en interrogeant les gens, avait découvert que le domestique qui était homosexuel avait un ami, et que cet ami, c'était Schaeffer, et qu'il n'est pas totalement parti dans le brouillard absolu. Mais ça, on ne le saura jamais. La légende pieuse veut qu'il ait complètement identifié ce Schaeffer, donc inconnu. C'est-à-dire, c'est le premier assassin que l'on identifie sur ses seules empreintes. Alors, ça va bien sûr donner un prestige extraordinaire à Bertillon, qui... pour autant, n'est toujours pas enthousiaste devant les empreintes digitales et qui va donc, avec toujours beaucoup de lenteur et de retard, n'adopter la fiche des cas dactylaires, c'est-à-dire avec les 10 empreintes des 10 doigts, comme on en voit une ici, ça n'a rien à voir avec quelqu'un de connu. L'empreinte, donc, la fiche parisienne telle qu'elle se présente en 1912, elle a donc les empreintes des 10 doigts, mais elle comporte toujours l'anthropométrie, et le signalement descriptif. Et on n'abandonnera l'anthropométrie que très très tard en France. Ce qui fait que Bertillon peut être considéré quelque part comme une des causes du retard prise par la police française, de ce point de vue, parce que l'Argentine était passée depuis 1892 à la fiche des cas dactylaires, la Grande-Bretagne depuis 1899, les États-Unis 1901, et en France, on commence qu'en 1904 ou 5, on continuera d'utiliser l'anthropométrie, je crois, jusqu'en 1932, ce qui n'est pas une avancée, bien sûr, considérable. Alors, quoi qu'il en soit, bien sûr, cette reconnaissance de Schaeffer, ces travaux autour de l'identité, de l'identification, vous vous en doutez, eh bien, sont aux origines de ce qu'on va appeler la police scientifique à l'époque, parce que s'illusionne, bien sûr, mais on deviendra plus prudent rapidement en disant la police technique et scientifique. C'est-à-dire que des policiers de laboratoire, des policiers en blouse blanche, ce sont des expressions qu'on trouve à l'époque dans la presse ou dans les livres, vont se voir de plus en plus souvent confier des, pas des enquêtes, mais des mesures, mais des analyses que vont leur confier les policiers. Et le laboratoire d'identité judiciaire, le service d'identité judiciaire de Bertillon va en quelque sorte être le premier laboratoire de police technique. Alors on va lui donner tout un tas de choses à identifier, qu'il s'agisse d'analyser des poudres, des poussières, des boues, hein, qu'il s'agisse... Alors je vous ai... apporter quelques documents, hein, bien sûr. On va confier à Bertillon, par exemple, des expertises sur des cambriolages. Cette expertise, je vous explique rapidement, il s'agit d'un bureau à cylindre qui est en coupe, qui a été forcé. Mais comme le cambriolage a dégénéré en meurtre, cette affaire que l'on appelle l'affaire Courtois-Renard a été terriblement importante et Bertillon, avec énormément de précision, a démontré qu'il ne pouvait pas y avoir un seul homme pour forcer ce bureau à cylindre, qu'il fallait effectuer les pesées de deux côtés qui étaient trop éloignés pour un seul homme, donc il y avait bel et bien deux cambrioleurs et donc deux assassins potentiels. Ce sont, alors si vous avez visité l'exposition ou si vous la visitez, vous allez retrouver des choses évidemment que vous connaissez bien. Un cambrioleur qui a mordu dans une pomme et donc la trace de ses dents. Hein. On a des moulages antérieurs à 1900. Hein. Le moulage des traces de pas, un cambrioleur qui saute d'une fenêtre et qui tombe dans un tas de sable de face, on fait un moulage et regardez, on a sa main, ses outils, hein, et son visage avec énormément de précision. Bref, si vous voulez, de la simple identification, et quand je dis la simple, je veux dire la seule identification, on passe à quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus intéressant aussi, qui est la mise au point de procédés de laboratoire qu'on va utiliser dans une enquête policière et qui vont compléter les investigations des policiers sur le terrain. Donc, la compétence de l'identité judiciaire à Paris du laboratoire d'Edmond Locard à Lyon va s'étendre à l'analyse, par exemple, donc des traces qu'on va trouver sur les habits, qu'on va trouver sur les mains. La grande idée qu'on a dès cette époque, c'est que dès qu'il y a crime, ou enfin dès que quelqu'un est sur un lieu, il y a un échange. C'est-à-dire qu'il va, on va retrouver dans ses vêtements, dans les pores de sa peau, quelque chose qui vient du lieu, des poussières, des plantes, de la limaille de fer, que sais-je, hein, et puis qu'à l'inverse, lui va laisser... Des sortes de signes d'identification de sa personne sur les lieux du crime. Alors l'utilisation de lumière rasante, du microscope, des rayons X, tout ce que la science va donner comme moyen au fur et à mesure à ses laboratoires va servir dans les analyses chimiques, biologiques, à analyser et à découvrir alors, ces fameuses traces, ces fameux échanges qui permettront de confondre un certain nombre de criminels et même un nombre certain et de plus en plus nombreux. Alors cette police technique et scientifique, hein, bien sûr, elle est à l'époque balbutiante, elle est débutante, mais elle est pleine d'imagination, parce qu'ils ont tout à inventer, hein, ces gens, à cette époque. Et on utilise tous les moyens, alors parfois ça prête à sourire, mais ils le font avec beaucoup d'intelligence, bien sûr. Et ça va donner à cette police scientifique, à ces laboratoires de police technique, à ces policiers en blouse blanche, comme on les appelle, une image un peu mythique, hein, ils paraissent... À l'opinion publique, c'est miraculeux. Voilà des gens qui sont capables, sur des traces indécelables à l'œil nu, hein, de prouver la présence, de provoquer donc les aveux, donc de prouver la culpabilité d'un criminel. Alors, il y a des succès spectaculaires dans ce domaine. Hein. L'un des plus spectaculaires, sans doute, et on le doit au grand rival et concurrent de Bertillon, il s'appelle Edmond Locard, il est lyonnais, il dirigera pendant 50 ans le laboratoire de police technique de la police lyonnaise, et on lui doit, excusez-moi, une invention qui est celle de la poroscopie. Alors, vous avez là les restes d'une vitrine qui a été brisée par des cambrioleurs qui ont pris la précaution de mettre des gants. Traces des gants, hein, apparus à la céruse, au noir de fumée, etc. Or, Locard a démontré que dans ces fameuses crêtes papillaires qui se trouvent à l'extrémité donc des doigts, si on les regarde au microscope, elles sont ponctuées, regardez, de petits orifices qui servent, j'imagine, à la sécrétion, hein, bien sûr, de la transpiration, etc. Et que ces pores, quand on les agrandit, eh bien, eux aussi permettent d'identifier quelqu'un. Alors, il y a un exemple fabuleux, 1911, cambriolage à Lyon. Les voleurs ont opéré au petit matin, ils ont cassé une vitrine, c'est chez un fourreur, ils ont opéré avec des gants. Locard, grâce à la poroscopie, etc., est capable de les identifier dans la journée. Les cambrioleurs sont arrêtés le soir à Paris, gare de Lyon. L'opinion, complètement subjuguée, bien sûr, hein, se met à imaginer que la police technique et scientifique, elle va être capable de tout résoudre, de tout résoudre. Et c'est ce qui est intéressant, et je voudrais terminer là-dessus, si vous voulez, c'est que cette police, elle était porteuse d'un grand espoir, mais d'une part d'illusion et d'une part de mythe. Alors, cet espoir, c'était que la police judiciaire serait désormais infaillible. On ne se tromperait plus, bien sûr, hein, et qu'elle serait propre. J'entends par là qu'on pourrait faire l'économie de l'aveu et de toutes les méthodes pour l'obtenir. Vous savez, le passage à table, la cuisine, le passage à tabac, etc. Et donc, on n'aurait plus besoin non plus d'indicateurs, on n'aurait plus besoin de tous les moyens pour payer une indication, comme le Condé, etc. Et donc, cette illusion d'une police judiciaire infaillible, propre, c'était bien évidemment une illusion, hein, nous le savons bien. La police technique et scientifique, elle apporte aux enquêteurs de nouvelles cordes à leur arc, leur offre effectivement un champ d'investigation, des moyens bien terriblement intéressants et importants, mais qui sont parfois totalement inutiles. Je prendrai deux exemples d'affaires criminelles que vous connaissez, au moins l'une d'entre elles. En 1911, on vole la Joconde au musée du Louvre. Énorme empreinte d'un pouce du voleur, etc. On possédait ces empreintes, hein, par ailleurs. On est complètement passé au travers. Hein. Mais je crois que l'affaire la plus intéressante pour montrer les limites de cette police, c'est bien sûr l'affaire Landru. Vous vous rendez compte, quand même, Landru va être condamné à mort, hein, et exécuté, alors que jamais la police scientifique, les investigations de la police technique et scientifique n'ont été capables ni de savoir comment, ce qu'il faisait des corps, parce qu'on a parlé de la cuisinière, mais la cuisinière, toutes les expériences l'ont montré, il fallait 100 kilos de charbon pour y brûler les restes d'un mouton, et la cuisinière était toute petite, on ne pouvait ne passer que des membres découpés, mais en aucun cas un tronc. Que faisait-il de ces morceaux-là? Et puis, par ailleurs, s'il les découpait, où les découpait-il? Comment tuait-il ses victimes? On n'a rien de son mode opératoire, on n'a pas retrouvé la moindre trace dans la maison de Gambet et dans les autres locaux du sieur de Gambet, comme on l'appelait. Donc, cette police, elle n'était pas capable de résoudre tout et n'importe quoi, hein, c'est évident, nous le savons, mais parce qu'on dispose du recul. Et puis je voulais dire aussi que cette police, elle était porteuse d'espoir qu'elle n'a pas forcément donc tenu, mais elle était aussi porteuse quand même de choses un peu inquiétantes. deux choses inquiétantes, bien sûr. Si vous utilisez des empreintes digitales, si vous utilisez l'ADN, si vous utilisez, etc., les policiers, avec beaucoup de logique, vous diront que le seul moyen d'être efficace, c'est d'avoir des fichiers les plus étendus possibles. Et Dieu sait si la question est à l'heure actuelle d'actualité, hein, bien sûr, avec le fichier Edwige, regardez tout ce qui s'est passé autour des fichiers ADN, etc. Or, je n'ai aucun jugement, hein, qu'on soit bien clair, on pourra en parler par la suite, mais je voulais juste vous dire que cette tentation de fichage général et universel, les meilleurs policiers de l'époque l'ont eu. Edmond Locard, 1919, écrit un livre fabuleux dans lequel il dit qui s'appelle « Ce qu'est la police, ce qu'elle devrait être ». Et il écrit ceci, je prends la peine de le citer parce que ça vaut la peine. « Il ne faudrait pas croire que les archives ne doivent renfermer que des dossiers de criminels condamnés ou même poursuivis. Il y a grand intérêt à constituer des dossiers préventifs. » Et il donne comme exemple de population à risque les enfants qui font l'école buissonnière, qui sont de la graine d'Apache. Il ajoute les médecins avorteurs, je ne sais pas pourquoi, enfin sans doute à cause de la crise de la dénatalité française, ça m'a toujours amusé. Bref, cette tentation du fichage généralisé, elle a, à ma connaissance, été réalisée quelque part. C'est en Argentine, en 1934, hein, dans ce qu'on a appelé le Grand Livre National. La totalité de la population a été fichée, vous imaginez, que les empreintes des 10 doigts, ça représentait 26 000 volumes in folio de 500 pages chacun. On a eu la même tentation au Chili, au Mexique, hein. En France, on s'est contenté de ficher des populations à risque, entre guillemets. Et vous le savez bien sûr, hein, 1912, c'est la création du carnet anthropométrique des nomades, des bohémiens, qui incarnent une des peurs sociales, hein, importantes de l'époque. On fera la même chose, j'avais des photos, je ne vous ai pas montré, mais ce n'est pas grave, pour les anarchistes. Dans le cadre d'une lutte antiterroriste, on fiche des gens, dont certains, Élisée Reclus, géographe quand même, respecté, respectable, à ma connaissance, n'a jamais posé la moindre bombe, mais il était quand même bel et bien dans les albums d'anarchistes. J'essaierai de vous le retrouver tout à l'heure. Hein. Et puis, je voulais vous dire aussi que cette police technique et scientifique, cette expertise, on ne peut pas en dire, évacuer totalement la question, elle est porteuse également de ses propres dangers. J'ai pris exprès deux symboles, deux figures, hein, de cette police technique et scientifique. Bertillon, vous le savez, c'est quand même gravement compromis. Je ne dis pas qu'il s'est trompé, parce que je pense qu'il ne s'est pas trompé. Il l'a fait volontairement dans l'affaire Dreyfus. Il n'était pas graphologue, et en identifiant l'écriture du bordereau avec celle du capitaine Dreyfus, il répond sans doute à un antisémitisme profond chez lui, à des pressions sociales, tout ce qu'on veut, mais c'est très grave, bien sûr. Il a obtenu des tas de condamnations, Bertillon, parce que les jurés ne comprenaient rien à ce qu'il disait, le président non plus, puis on faisait confiance à l'homme de science, hein, qui venait parler. Locard est terrible à l'égard de Bertillon, hein. Il dit vraiment que ce qu'il a fait dans l'affaire Dreyfus est quelque chose de, pour un scientifique, d'inqualifiable, etc. Et surtout parce que Bertillon n'était pas graphologue. Mais Locard lui-même, en 1947, a, dans une expertise graphologique, reconnu la lettre, dans une lettre de dénonciation d'un maquis, l'écriture d'une femme qui a été condamnée à perpétuité, et dont, 7 ans plus tard, on a fait la preuve de l'innocence. Donc, ce poids des experts, hein, ce danger de l'expertise du personnage qui arrive et puis qui tient un discours scientifique, qui impressionne les jurés, bien sûr, hein, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, je pense, dans cette question, hein, de la police technique et scientifique. Je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai dépassé le temps. Hein, ça va ? Bon, ça va. Non. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. Et donc, je vous propose qu'on discute, hein, parce qu'il y a des gens ici mille fois plus compétents que moi, sans doute, dans des domaines dont je ne connais que le passé, finalement.
Merci beaucoup pour cette conférence très instructive sur l'histoire de la police scientifique technique au XIXe siècle. Ça ne l'est pas encore comme ça ou plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez dit à propos des... c'était vraiment passionnant parce que votre conférence est un récit, monsieur Bernier. Donc je pense que vous aimez écrire et vous êtes passionné par votre sujet. Alors là, on a eu l'impression d'être dans un roman policier aussi. Vraiment, c'était très intéressant. Et bon, on voit tout le travail que font les historiens, hein, en cherchant dans les archives, etc. Donc c'est aussi pour les étudiants qui malheureusement ne sont pas présents ce soir, quelque chose qui est très important, qu'on dit tout le temps ici, en effet, aller chercher dans les archives pour votre travail. Et puis vous avez parlé de quelque chose qui est important en histoire des sciences et qui est en fait une approche épistémologique, c'est le personnage. Le personnage n'est pas celui qui a inventé. On se fixe des personnages, la notion de précurseur n'existe pas, mais vous nous avez fait émerger là, quand même, vous fait vivre un personnage étonnant, quoi. Vous nous dites qu'il ne faut pas se focaliser bien sûr sur une personne, mais ce que vous avez dit de Bertillon, c'est que c'est l'histoire d'un homme.
Bien sûr.
Voilà, donc, et aussi à partir de l'histoire de cet homme, toute l'histoire de l'époque et de ses recherches, bien sûr, qui sont plus qu'importantes. Donc vraiment, merci beaucoup.
Ça merci.
Est-ce qu'il y a des questions à la salle?
Pendant que je vous montre ces fameux albums d'anarchistes, alors la qualité est épouvantable, bien sûr, hein, mais vous reconnaîtrez, parce qu'il y a son nom, hein, bien sûr, Élisée Reclus, oui, donc, oui. Le prince Kropotkine à côté, Malatesta, ici, etc. Alors, c'était des albums, hein, que la police, qu'on appellerait aux frontières aujourd'hui, portait pour reconnaître. Hein. Alors, c'était très intéressant, d'ailleurs, parce que ces albums étaient classés, je vais essayer de vous montrer, voilà. J'ai recollé, hein, excusez-moi, des photocopies, mais donc voilà comment il se présentait, la taille, hein, et je ne sais pas si vous distinguez, ce qui était intéressant, c'est que les photos étaient classées, donc il y avait 9 entrées, si vous voulez, enfin 3 entrées principales et 3 sous-entrées, ce qui fait qu'on n'allait pas quand même complètement la pêche, hein, on partait de la taille des gens qu'on soupçonnait, à partir de là on entrait dans une autre sous-catégorie, mais enfin on avait quand même 150 ou 200 photos à voir, elles n'étaient pas forcément ressemblantes, on a rapidement arrêté, parce que c'était très cher, c'était très lourd et tout, vous imaginez, alors évidemment bien sûr, aujourd'hui, je n'en ai pas dit un mot, mais l'ADN a complètement... révolutionner le problème de l'identité, puis l'informatique, la transmission des données, hein, bien sûr les nouvelles techniques permettent, vous rendez compte, à l'époque, téléphoner un portrait parlé, puis vous aviez quelqu'un à Nice qui attendait le train, puis qui regardait sortir les passagers, puis qui essayait de les reconnaître en regardant discrètement leur oreille droite. Oui, enfin, ça peut être d'ailleurs pas du tout des questions, hein, mais je pense que si vous avez souhaité apporter des compléments, mais je n'ai pas du tout d'obligation. Hein. Je vois que Frédéric brûle.
Est-ce que tu as quelque chose, Frédéric Chauveau ?
Merci, non, pas forcément. Mais
mon éminent collègue de Poitiers.
Non, juste peut-être une interrogation, parce que ce qui est moins connu, c'est ce que tu as précisé, rappelé à plusieurs reprises, c'est la comparaison internationale. Est-ce qu'il y a une figure de police comme institution ou des figures de policiers qui apparaissent à ce moment-là en Europe, et quelles résonances ou quels échos peuvent-ils trouver ailleurs dans les autres pays ou également en France?
Alors, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis que je reviens de Florence, d'une thèse à l'Institut européen. La thèse n'était pas bien bonne parce que le candidat est très doué mais avait mille autres tentations évidemment et n'a pas suffisamment travaillé dans les archives, mais c'est passionnant parce que une de ses parties est justement sur cette circulation des modèles et ces confrontations que constituent, et ça j'ai trouvé ça mais passionnant, hein. Non seulement les congrès de l'anthropologie criminelle où tous ces gens débattent, hein, entre eux, mais également, je vous ai mis cette image, de l'exposition universelle de 1900, hein, où chaque police, vous vous rendez compte, dans une exposition universelle, comme dans une foire et autres, on vient montrer ce qu'on sait faire. Hein, on vient montrer ce qu'on sait faire. Alors les gens de la Sûreté nationale, par exemple, la Sûreté générale à l'époque, qui sont très, très hostiles à la préfecture de police, hein, il en reste quelques traces d'ailleurs aujourd'hui, disaient que Bertillon, il se cassait pas la tête, hein, parce que tous les ans, il mettait ces mêmes cartons, il sortait ces mêmes trucs sans les rénover et tout. Alors, il y a exactement, c'est passionnant, parce que toute cette fin du 19e siècle est hantée par la même angoisse du récidiviste, du terrorisme, etc. Et finalement, Bertillon a eu une reconnaissance dès 1889, ce qui permet de trouver son nom, je disais, même à Berlin, dans l'Empire allemand, et les Français n'étaient pas peu fiers, évidemment, de ça, dans le contexte de l'époque. Mais en réalité, il y a des Bertillons partout, hein, j'allais dire. Donc, il y a un Bertillon belge qui s'appelle Stokis, il y a un Bertillon allemand qui s'appelle Rudolf Archibald Reis, il y a un Bertillon allemand qui s'appelle Gross, et puis il y a quelqu'un dont je ne vous ai pas parlé, et ça, tu m'offres l'opportunité d'en parler, parce que je crois que c'est lui qui devrait figurer peut-être comme, pas l'inventeur, mais le meilleur utilisateur de la dactyloscopie, c'est Juan Vucetich, qui est un dalmate, qui a immigré en Argentine en 1884, que les Argentins ont chargé, ironie du sort, en 1889, de créer à la police centrale de Buenos Aires un service d'identité judiciaire sur le modèle du service de Bertillon, et qui dès 1891 passe à la fiche des cas dactylaires, classe est capable de reconnaître une empreinte dans une collection, et dont on ne parle jamais, tout simplement parce qu'il est dalmate d'origine et que ça se passe en Amérique latine, hein. Et j'ai lu, j'ai rencontré l'auteur d'une thèse indienne, et c'était, là aussi, moi, je découvrais complètement, hein, le problème, c'est que c'était écrit en anglais indien. Déjà, l'anglais, j'ai du mal, mais l'anglais indien, c'est pire. Mais c'était très convaincant, hein, montrant que les administrateurs britanniques comme Herschel, en fait, se sont inspirés de traditions très anciennes en Inde, et que, alors, ça remet tout en cause, évidemment. C'est plus Malpighi, je ne sais pas comment on prononce, qui aurait le premier observé ces empreintes, mais ça serait des traditions. Alors, on m'a dit que c'était la même chose au Vietnam, hein, y a quelqu'un qui travaille en ce moment sur la police au Vietnam, et que là aussi, une tradition très très ancienne, hein, qui remonte sans doute au 16e, 17e siècle, d'utilisation des empreintes. Mais effectivement, alors, ces gens-là, en plus, ne se supportent pas entre eux. Hein, Vucetich, Bertillon, surtout, qui est quand même un atrabilaire fini, et maniaco-dépressif, et en plus très attaqué, vu ce qui lui arrive dans l'affaire Dreyfus. Moi, j'ai découvert, hein, que dans ces congrès d'anthropologie criminelle, ils ne s'envoient pas des fleurs. Hein, poliment, ils se respectent, mais très rapidement, ils se critiquent très très fort les uns les autres. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est l'une des voies qu'il faut, l'une des pistes qu'il faut explorer absolument, hein, cette circulation, c'est des savoirs, des modèles, ces concurrences, etc.
Monsieur Berlière, il n'y a qu'une mesure physique, et y a-t-il des mesures mentales qu'on mesure, comme
oui,
on le fait maintenant.
Je ne pense pas que le QI, non.
Non,
là,
par exemple, l'expert psychiatrique, maintenant, il a un impact énorme. Oui. Et qu'en est-il à cette époque?
L'expert psychiatrique, il joue, mais on ne l'appelle pas comme ça à cause de la loi de 1838, hein, si je ne m'abuse, sur la responsabilité ou non. C'est un cas, et vous avez raison. Alors là, l'expertise, Alexandre Lacassagne, qui a droit à toute mon admiration à certains égards, c'est quand même l'expert dans l'affaire Vacher. Vacher, vous savez, c'est le tueur de berger figuré par Michel Galabru dans le film extraordinairement respectable, hein, de Tavernier. Quand on lit l'expertise psychiatrique de Vacher par Lacassagne, en fait, il veut la tête de Vacher. c'est quand même un type qui s'est tiré une balle dans la tête, qui a toujours une balle dans la tête, qui est affligé d'une paralysie faciale de la moitié donc, du visage. Et la Cassagne explique franchement hein, qu'il faut observer Vacher évidemment du côté normal, parce que si on le regarde de l'autre côté, etc. Et c'est plein de méchanceté. D'ailleurs, il a été terriblement attaqué hein, par un professeur parisien qui a dit qu'on avait quand même assassiné un simple d'esprit, quoi. Oui, vous avez raison, mais là on n'a pas de mesure, mais ça fait froid dans le dos, hein, l'expertise, bien sûr, dans ce domaine. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Mais là, je ne sais pas, je connais moins la question. Hein, ils n'ont pas ces éléments comme ont les experts dans une affaire criminelle, mais qui peuvent se tromper, on le sait bien. Hein. Ceci dit, l'ADN, si on regarde... moi, j'ai été frappé par l'affaire, vous vous souvenez, de cette petite Anglaise qui avait été tuée et violée, Dickinson, elle s'appelait. Hein. Quand on pense qu'il y a quand même un type qui était un vagabond, un hobo, qui s'est accusé du crime, qui avait avoué, enfin, qui ne s'était pas accusé, qui avait avoué, et heureusement que les tests ADN ont démontré son innocence. Hein. Mais ça, c'est pareil, hein, excusez-moi d'entrer dans des choses extrêmement graveleuses, mais elles ne le sont pas, hein, bien sûr. On a fait un film, j'ai fait des tas de documentaires sur l'histoire de la police. Et le directeur de la police judiciaire à l'époque, l'interview, il était complètement sur une affaire. Donc il nous accorde quelques minutes seulement, mais il était dans son affaire. Et l'affaire, c'était donc une femme, une jeune femme, qui avait été assassinée, violée. Le sperme qu'on avait retrouvé dans son vagin était en fait celui de son petit ami avec lequel elle avait eu un rapport la veille, et le violeur avait utilisé un préservatif, et donc là on allait tout droit encore à l'erreur judiciaire, hein. Jamais la police scientifique, hein, je pense que le lieutenant présent et l'expert ne remplacera bien sûr tout ce qui est autour, hein. C'est un élément de plus énorme qui dégage le terrain, qui donne des pistes, regardez dans l'affaire dite de la Vologne, hein, on n'a jamais pu, l'ADN du timbre, la fameuse lettre anonyme, hein, on n'a jamais pu, on ne remplace pas l'intelligence de l'enquêteur, hein, il faut la totalité, hein, je crois, dans une enquête, ça doit être très global, hein. Moi je ne suis pas policier ni gendarme, mais j'imagine que c'est un moyen formidable, mais...
Effectivement, d'ailleurs, sur le thème de scène de crime, on a été interviewé à plusieurs reprises par les radios, par la télévision, etc. Et à chaque fois, on a bien précisé qu'effectivement, les avancées en matière d'investigation criminelle ne sont presque rien s'il n'y a pas une enquête de base. L'auteur, j'ai souvent pris comme exemple un meurtre qui a eu lieu sur l'île de Ré, où une jeune fille a été agressée, violée, assassinée par un jeune homme. On découvre une trace d'ADN sur un essuie-vêtement de la jeune fille, mais l'ADN, il est muet dans l'immédiat. Et on ne peut l'associer qu'à un auteur que parce que l'enquête traditionnelle des gendarmes, localement, ont permis d'identifier et d'entendre toute une série de personnes, dont l'auteur. L'ADN avait été prélevé, ensuite il est comparé. Si l'enquête de base n'avait pas été faite, si on s'était uniquement fié à l'enquête de police scientifique, on n'aurait jamais eu l'identité de l'auteur. Ou alors, à moins qu'il se fasse contrôler plus tard et puis que le fichier donne une réponse. Mais dans l'immédiat, c'est vraiment l'enquête de proximité, d'environnement qui a permis d'identifier un auteur.
Il s'est passé, je crois, la même chose avec le petit gamin là, qui a été massacré.
Tout à fait, le petit Valentin. Là c'est également un des cas où on a un auteur potentiel, on l'a identifié, ensuite on confronte son ADN
les
avec
traces de sang,
les traces de sang. Alors ça veut dire aussi qu'en termes de prélèvement, vous mettez en évidence que dès l'époque, enfin très tôt, fin 19e, peut-être même beaucoup plus tôt encore, et en tout cas fin 19e, parce que c'est là où on en parle le plus, on s'attache à rechercher des choses qui vont caractériser un auteur. Soit son empreinte digitale, soit la photographie. Jusqu'il y a encore très peu de temps, l'anthropométrie ressemblait à ce qu'a fait Bertillon. On l'a amélioré, mais le portrait parlé existait presque. Puisqu'on précisait... Bah, s'il avait un nez épaté, pas épaté, la bouche...
C'est le signalement.
Le signalement. Donc le signalement, il n'y a que très peu de temps qu'on l'a un peu édulcoré, parce que c'est plus forcément indispensable. Donc Bertillon, on en parle beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que là, on revient sur l'histoire première de la police technique et scientifique. Moi, j'étais formé à la PTS en 86. On nous parle à l'époque de Bertillon. Locard, ça vient beaucoup plus tard. Locard, ça vient à l'époque où on commence à rechercher sur place des éléments très caractéristiques. Pas encore de l'ADN, mais du pollen, oui. Des choses comme ça. Hein. De manière, je dirais, systématique. Là, on a vu qu'effectivement, ils commençaient à en rechercher, à l'analyser, mais là, on est sur des laboratoires très, très, très précis. On est sur Paris, avec des moyens, avec des scientifiques. En province, à mon avis, on n'a pas tout ça.
Ah non, 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 il n'y a que Lyon. Hein. Voilà. Il n'y a qu'un autre laboratoire.
Donc, dans les années 84-85,
c'est Lyon.
Avec le colonel Sicard ici présent, on a eu, c'était en 82, l'affaire Moreau en 82. On trouve sur le cadavre d'une jeune fille qui a été violée et puis poignardée à mort, des traces de pollen, de graines qu'on ne peut pas identifier. On sait ce que c'est, mais aujourd'hui, on saurait dire ça vient de tel champ, à tel endroit. Et a certainement été tué là-bas et ensuite transporté ici. En 82, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Et on a eu une évolution énorme. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de la trace d'ADN sur l'affaire de la Vologne. Pourquoi on ne trouve pas d'ADN ? Parce qu'il a été mal conservé. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était possible. Donc, on n'a pas pris des précautions. Si on avait pris des précautions sur la lettre, aujourd'hui, on aurait pu déterminer l'ADN. Pas forcément à 100%, mais on aurait une indication. Donc aujourd'hui, on pourrait peut-être solutionner des crimes qui sont relativement anciens. Encore eût-il fallu, à l'époque, conserver les éléments dans de bonnes conditions.
Et la vraie révolution, hein, c'est la deuxième moitié des années 80, je crois, début des années 90. On met à niveau une police technique et scientifique française qui était à la traîne, hein, il faut bien dire. C'était très très loin des polices allemandes, anglo-saxonnes ou autres.
Je suis désolée, on est obligé d'arrêter parce qu'il y a une autre conférence tout à l'heure. On aurait continué. Hein, on aurait continué vraiment au moins un quart d'heure. Merci à vous, Monsieur Berlière, et puis merci beaucoup à notre public. À plus tard. Au revoir.